Marc nous a parlé du fait que Dieu garde ses enfants. Eh bien, Dieu veut également le bien de ses enfants. Voilà une autre pensée, un autre sujet qui doit, je le crois, stimuler notre foi. Et c'est ce que nous allons regarder, c'est ce que je vous propose de regarder ensemble ce matin. Savez-vous, frères et sœurs, chers amis, que Dieu veut notre bien et Dieu veut le bien de son Église et il s'y emploie tous les jours pour que le bien qu'il a prévu pour ses enfants et son Église s'accomplisse comme il le veut. Je ne sais pas si on peut, que l'on soit croyant ou incroyant, chrétien ou non chrétien, oser dire que, on n'a pas entendu parler du fait que Dieu veut le bien de ses enfants. Parce que dans ce lieu, on l'a répété maintes et maintes fois. Pourtant, il y a une grande différence entre le fait de le savoir simplement parce qu'on l'a entendu une fois, plusieurs fois, et le fait d'en avoir au fond du cœur la conviction profonde, au point que cette vérité divine, qui est une promesse, comme on va le voir dans l'instant qui suit, soit pour moi, soit pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, bonne ou moins bonne ou même mauvaise, soit pour moi une source inépuisable de réconfort et de joie dans le Dieu de Jésus-Christ et une véritable stimulation pour ma foi. Eh bien, voilà, je vous invite à lire avec moi ce passage bien connu de Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Et nous allons tenter ensemble de le disséquer, si nous pouvons effectivement le faire. Romains chapitre 8. Verset 28. Alors, au moins pour le verset 28, il y a plusieurs types de traductions, mais je vais prendre la traduction Second que nous avons pour la plupart dans les mains. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Oh, s'il y avait une méditation à faire, tous les matins, pour ses congés, pour certains, ce serait sur la base de ces deux versets, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses à penser et à dire à ce sujet. Mais on ne le dira jamais assez. Oui, Dieu veut notre bien. Et ce sujet m'a travaillé encore cette semaine parce que vous savez bien comme moi que la vie aujourd'hui est de plus en plus compliquée. Elle est de plus en plus difficile. Les circonstances ne sont pas simples et nous subissons d'une certaine manière ces circonstances. Et puis je peux penser à certains d'entre vous également qui traversent des difficultés, qui peuvent traverser des épreuves, que ce soit à titre personnel, que ce soit dans sa famille, dans son foyer. Je pense aussi à nos missionnaires que nous suivons, pour lesquels nous prions et que nous soutenons même d'un point de vue financier, parce que ce sont des frères chers à nos cœurs à qui Dieu a confié une mission et cette mission pour eux n'est pas simple à accomplir dans le monde actuel. Et on peut penser à tout ce que cela peut comporter de joie, mais aussi de difficulté. Alors, mes amis, comment face à ces difficultés de tous les jours que nous pouvons subir bien souvent, comment face au revers de la vie même ou aux difficultés qui peuvent traverser l'Église? Parce que si ce n'est pas le cas pour le moment, ça peut être le cas demain. S'entendre dire alors que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, alors que tout paraît en contradiction avec la réalité parfois impitoyable et par rapport à des expériences douloureuses que l'on est en train de vivre, c'est difficile à comprendre. Parce que nous sommes humains. Mais tout d'abord, permettez-moi d'affirmer que ce passage de Romains chapitre 8, versets 28 et 29, est l'un des seuls passages de la Bible, sinon le seul, qui, par la puissance qu'il dégage, peut nous donner autant d'assurance dans ce que Dieu promet et accomplit de faire. Et peut nous donner cette confiance ou renouveler cette confiance dans l'épreuve que nous traversons, quelle qu'en soit sa nature ou son intensité. Et d'ailleurs, la Bible tout entière, comme on va le voir, en est un témoignage puissant. Prenons l'exemple de Joseph. On ne va pas regarder, bien sûr, la parole de Dieu sur l'histoire de Joseph, parce que nous la connaissons dans ses grandes lignes. Mais cette belle histoire de Joseph, on dit belle parce que elle se finit bien, n'est-ce pas? Mais c'était pas le cas au début. Alors, aurions-nous imaginé que Dieu voulait le bien de Joseph, si, à la place de Joseph, nous étions au cœur des années le plus noires que lui-même a traversées? Certainement pas. Nous serions peut-être plus désemparés qu'il ne l'a été lui-même, parce que nous aurions été dans une sorte de tunnel tout noir dont on ne voit pas la fin. Et ça, c'est terrible. Et j'aimerais rappeler deux ou trois faits marquant sa vie, parce que c'est essentiel de s'en rappeler. Vous souvenez, il a été éloigné de force de la maison de son père. Alors imaginez que ça vous arrive. Il a été vendu par ses frères. Imaginez que ça vous arrive. Comme esclave. Vendu, ok, mais en plus comme esclave. Oh là là. Résultat, il a fait des années et des années et des années en prison, injustement. Imaginez que ça vous arrive. Pourtant, il dira plus tard à ses frères qu'il va revoir des décennies, plus tard. C'est l'histoire qui nous le dit. Vous aviez méditer de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Joseph avait fini par comprendre ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui à travers Romains 8, 28 et 29, ou ce que nous comprenons si mal de cette promesse dans ce chapitre. Il avait lui-même fini par le comprendre. Et si nous ne le comprenons pas aujourd'hui comme il ne le comprenait pas lui-même forcément au début, Dieu promet de nous faire progresser pour que nous comprenions sa parole et que nous puissions vivre par la foi ce que Dieu dit et ce que Dieu promet. Dieu avait permis dans sa sagesse infinie que Joseph, pendant de longues années, eh bien, traverse ces circonstances-là qui sont pénibles, qui étaient pénibles, qui se sont même enchaînées les unes après les autres, dans le seul but de changer le cœur de son serviteur afin qu'il porte du fruit pour Dieu. Et à la fin, Joseph a porté du fruit pour Dieu. Et c'est tout ce qui importe au Seigneur. Que ceux qu'il aime, ceux qu'il a connus d'avance, eh bien finissent par porter du fruit à la gloire de Dieu et à ressembler de plus en plus au caractère du Fils de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Job n'est pas moins pathétique que celle de Joseph. Parce que vous connaissez aussi cette histoire. Alors que Job avait tout perdu en très peu de temps, il avait perdu ses biens, ses ressources, ses richesses, sa famille et sa santé. Il avait tout perdu. Il a fallu plusieurs années, avant qu'il comprenne les raisons de ces étranges épreuves qu'il avait atteintes. Parce que c'est étrange quand même. Lui qui servait Dieu dans la justice, et cela lui arrive. Et alors, pendant des années, il ne comprenait pas. Et il disait même, mais pourquoi, Seigneur ? Moi et le méchant n'est pas touché. Celui qui te rejette, lui n'est pas touché. Et moi, je le suis, quoi. C'est injuste. Il a fallu donc des années, voire plus, pour qu'il comprenne ce que nous pouvons comprendre par la foi à travers Romains 8, 28. Et lui-même, un peu comme Joseph, enrichi par ces épreuves-là, il dit plein de fois, « Mon oreille avait entendu parler de toi, et ça, c'est pas suffisant. Mais maintenant, mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre, et vous trouverez ça dans Job, chapitre 42, versets 5 et 6. » Et lui aussi a fini par comprendre que Dieu, à travers eh bien, sa vie et ses épreuves, cherchait le bien de son serviteur et ne l'avait appris que bien plus tard. Et si nous sommes dans cette même situation d'incompréhension de ce texte, Dieu va accomplir un jour sa promesse. Quand bien même il nous faut traverser des moments difficiles pour le comprendre, parce que Dieu veut notre bien et celui de son Église. Que dire encore de Jacob, des apôtres ou même de Jésus-Christ ? Et vous remarquez comme moi que, eh bien, qu'à travers tous ces parcours de vie, eh bien, ce sont tous des serviteurs de Dieu qui ont connu cela, tous. Et si nous sommes véritablement serviteurs de Dieu, nous connaîtrons aussi cela. On y trouve à chaque fois un enfant de Dieu pour lequel Dieu veut le bien et même le meilleur. Et cela nous est rapporté par la parole de Dieu. Nul n'est plus grand que le Maître. On ne peut pas vivre tranquillement dans la vie si on veut servir Dieu pleinement, alors que Jésus-Christ, lui, n'a pas connu cela. Il a été dans sa vie au service du Père, tourmenté continuellement, mais tranquillisé, dans le sens où il faisait pleinement confiance à Dieu son Père pour le conduire. Alors j'aimerais maintenant, nous sommes dans quelques généralités, j'aimerais maintenant aller plus loin et clarifier quelques points doctrinaux avec vous. sur ce passage. Peut-être l'avez-vous encore devant les yeux. Et ça va nous être utile. Et j'aimerais comprendre à travers ce texte au moins quatre choses. La première, c'est-à-dire comprendre comment Dieu travaille à mon bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il l'accomplit? Quel est son plan? Est-ce que ça va réussir? Etc. Donc, comprendre quatre points que peut-être jusqu'à maintenant, je n'avais pas vraiment saisi. Premièrement, j'aimerais comprendre à qui Dieu s'adresse dans cette promesse. Et ça, c'est important. On dit Dieu veut le bien de tous. Vous êtes sûr? Non. Il est d'usage, un peu trop facilement, mes amis, d'utiliser ce passage de Romains 8, 28 d'une manière soit partielle ou soit hors de son contexte. C'est l'erreur, hein, l'erreur classique de tout lecteur de la parole de Dieu. Mais c'est pour ça que, eh bien, les enfants de Dieu font partie d'une église aussi pour que, eh bien, nous puissions progresser dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu, de façon à ne pas commettre ces erreurs qu'on peut appeler élémentaires. Alors que ce passage nous montre qu'il y a au moins deux conditions explicitées dans le verset 28 qui déterminent et limitent l'application de cette promesse. Vous avez remarqué? Je relis le verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous n'aimez pas Dieu, c'est-à-dire si vous ne faites pas sa volonté, vous n'êtes pas concerné par ce verset. Cette promesse ne s'appliquera pas à vous. Et vous serez perdu pour toujours si vous ne vous repentez pas et ne venez pas à Christ dans une foi authentique. Dieu, en effet, a-t-il promis de faire du bien à n'importe qui? Non. Le texte affirme que cela est réservé uniquement à ceux qui aiment le Seigneur. Et la parole de Dieu décrit qui sont en réalité ceux qui aiment le Seigneur dans sa parole, et en particulier dans l'évangile de Jean. Celui qui m'aime, dit Jésus, gardera mes commandements. Et si ce matin vous êtes un membre authentique, comme je veux le croire, de la famille de Dieu et avez avec lui, par Jésus-Christ, une relation d'enfant au Père, parce que vous êtes son enfant, alors vous aimez votre Père céleste. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous l'aimez, vous voulez le suivre. Vous voulez faire ce qu'il demande. N'est-ce pas? Et donc cet amour que vous avez pour le Père, pour le Fils, est un amour confiant, même s'il ne comprend pas toujours ce qu'il peut se passer dans sa vie. Et cette promesse donc s'adresse uniquement à ceux qui aiment Dieu le Père, Dieu le Fils et bien évidemment les frères et sœurs. Et c'est vraiment capital de le comprendre. Et puis, pour être au bénéfice de cette promesse, parce que il y a une autre application, une autre description dans ce verset, et donc pour être au bénéfice de cette promesse qui est une promesse inimaginable, qui est une promesse sublime qui nous est révélée là dans ce verset, il faut avoir été appelé selon son dessein. lequel a pour seul but de nous faire ressembler à la personne de Jésus-Christ, nous dit le verset 29. Et même si aujourd'hui, l'un d'entre nous, qui que ce soit, n'a pas la foi en Jésus-Christ, c'est possible. Je ne vous connais pas tous. N'a pas la foi qui sauve. Vous êtes peut-être tout de même appelé selon le dessein de Dieu, car ce n'est pas par hasard que vous êtes dans cette salle pour écouter la parole de Dieu. Et vous voyez donc bien que la promesse de Dieu dans ce verset n'est pas pour celui ou celle qui est perpétuellement en rébellion contre Dieu, mais seulement cette promesse s'applique pour ceux et celles qui ont été appelés selon le dessein de Dieu, qui à un moment donné viendront à Christ par la foi. Peut-être pour l'un d'entre vous, ce n'est pas encore le temps de Dieu. J'ose l'espérer. Et qu'un jour, si vous reconnaissez, eh bien, vous viendrez à lui par la foi. Deuxièmement, j'aimerais comprendre aussi. Il y a quatre choses. Hein. On en est au deuxième. J'aimerais comprendre aussi ce que Paul entendait par l'expression « au bien ». Toute chose concourt au bien. Quel bien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je l'interprète correctement ? C'était probablement plus compréhensible à l'époque que maintenant, je pense. Parce qu'aujourd'hui, avec l'influence du monde, qui même pénètre dans l'Église, dans les pensées des chrétiens, hein, il ne faut pas se leurrer. Eh bien, nous évaluons et considérons à tort les choses essentiellement d'un point de vue temporel et matériel. N'est-ce pas vrai ? Alors, on va dire, et c'est une erreur, je vais dire, par exemple, et c'est ce que nous nous souhaitons tous les 31 décembre. Et c'est pas mauvais de le faire. Eh bien, si je suis en bonne santé, si les souffrances ne m'ont pas atteinte et m'ont jusque-là épargné, si j'ai assez d'argent pour vivre, si je peux payer des vacances bien méritées, je peux me payer des vacances bien méritées, et je suis pas contre les vacances, c'est très bien. C'est le raisonnement. Hein. Si j'ai un conjoint et des enfants, si j'ai une maison digne de ce nom, si j'ai un travail, si j'ai, tout va bien. C'est ça le bien. Voilà très souvent mon raisonnement. Mais c'est le raisonnement du monde, hein, qui vient influencer mes propres pensées. Ce n'est pas du tout ce dont ce verset nous parle, mes amis. Parce que, malheureusement, j'associe naturellement la notion de bienfait et de bien souvent avec une forme de confort de vie temporelle et matérielle. Et la parole de Dieu est là aussi pour corriger mes pensées, s'il le faut. Et dans ce cadre-là, cela devient normal, eh bien, de ne pas comprendre ce que Paul voulait dire. Ben oui. Si le bien est tel que le monde le définit, est tel que je le pense moi-même par influence, alors je ne peux pas comprendre ce que ce verset me dit. Or, c'est d'un bien spirituel dont l'apôtre Paul parle ici, conduit par l'Esprit de Dieu. Car il faut lier le verset 28 au verset 29. Dieu veut me faire du bien de telle façon que mon caractère, ma personnalité ressemble de plus en plus à celle de mon Seigneur, que j'aime. C'est ça le but de Dieu. me faire du bien d'un point de vue spirituel, que je progresse, que la parole de Dieu me sanctifie, et qu'ainsi, par la discipline divine, je puisse progresser à la ressemblance, pour atteindre la ressemblance de Christ. Dieu promet à ses enfants un bien spirituel, un bien qui peut éventuellement, mais ce n'est pas la promesse de Dieu, forcément, s'accompagner d'un bienfait temporel, comme ça était le cas pour Job, hein, dont l'histoire nous raconte qu'à la fin, eh bien, il a retrouvé la prospérité matérielle. Et ça, ça a été pour Job également un grand sujet de reconnaissance. Mais il s'agit d'un bien spirituel avant tout. Troisièmement, je dois comprendre qu'il s'agit de toute chose. Peut-être ne l'ai-je pas compris encore. Mais il nous faut prier pour cela, frères et sœurs, dans nos réunions de prière, que nous puissions, eh bien, par la foi, progresser dans la compréhension des promesses de Dieu, de manière à ce que notre foi soit stimulée. Je dois comprendre qu'il s'agit de toute chose. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah bon ? Bah oui. Sans exception. Même si les apparences parlent plutôt en faveur d'un malheur, d'une grosse difficulté, de grosses contrariétés, de vie difficile, et on peut parler de deuil, d'une maladie grave, d'un accident inattendu, d'une difficulté même dans l'église du Seigneur. Je dois comprendre, frères et sœurs, mes amis, que toutes, même ces choses-là, sont soumises au contrôle bienfaisant de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu me demande de le croire par la foi. Toute chose bonne, moins bonne, ou même mauvaise, dans ma compréhension des choses. On peut parfois être désespéré par beaucoup de choses. Mais le découragement, vous savez, il vient souvent du fait que nous perdons de vue, nous perdons notre dépendance au Père, et nous perdons de vue le fait que toute chose dans les mains de Dieu lui servent, toute chose sans exception, pour atteindre son but. Et je ne vais pas le répéter, ce but. Que ce soit pour les personnes individuelles, ceux qui l'aiment, mais également pour son Église, corps de Christ. Dieu veut que son Église se sanctifie toujours plus et porte un témoignage digne de représenter le nom du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est là, frères et sœurs, où je crois où nous devons faire des progrès, en comprenant que même les épreuves que nous subissons ou que nous traversons sont dans les mains de Dieu, et d'ailleurs Marc en a parlé tout à l'heure, d'une certaine manière, et que le Seigneur nous aide à l'admettre, à le comprendre, et à nous y soumettre. Maintenant, c'est vrai que croire dans les moindres détails de notre vie, de tous les jours, que dans les mains de Dieu, quel que soit ce qui va se passer pour moi, cette réalité est souvent dure à comprendre. Mais Dieu ne nous demande pas de toujours tout comprendre, mais de recevoir cela par la foi. Et on va essayer tout à l'heure de prendre quelques versets pour nous encourager. Pourtant, il y a bien des exemples concrets que la parole nous donne pour nous démontrer qu'il n'y a pas à s'inquiéter, n'est-ce pas, de notre sort, de ce qui nous arrive, sachant que Dieu veut notre bien. Dieu veut aussi le bien des oiseaux, Il le dit d'ailleurs. Les oiseaux du ciel reçoivent tous les jours la nourriture. Et ça, ça vient de Dieu. Et lorsque l'un d'eux meurt, eh bien, le Père le sait aussi. Et le texte nous dit également que il n'y a pas un seul de nos cheveux qui tombe et pour lequel Dieu n'est pas au courant. Il sait tout cela. Cela veut dire, mes amis, que nous sommes précieux à ses yeux. Et comme il a été dit ce matin, Dieu nous garde. Pour cet objectif-là, du bien qu'il nous veut, pour soi, pour les uns et les autres individuellement, mais également pour son Église. L'amour de Dieu est d'une telle perfection qu'il s'intéresse à tous les détails de notre vie et la vie de son Église, et permet et conçoit toutes choses dans un but précis, sans se lasser. Alors, quelle sécurité nous avons dans les mains du Seigneur. Et il sait mieux que quiconque quels moyens utiliser ou employer, et ça ne sera pas le même forcément pour l'un ou pour l'autre, pour nous faire progresser sur le plan spirituel. Il y a la parole pour le faire, il y a la prière, il y a l'Église pour nous faire progresser. Mais l'épreuve également, les difficultés que nous pouvons traverser font partie également des moyens que Dieu utilise lorsque cela nous atteint. Et donc la parole de Dieu me demande d'accueillir cela favorablement en faisant preuve de patience, en faisant preuve de foi, sachant que cela produira au temps voulu par Dieu du fruit pour le Seigneur. Il y a des quantités d'exemples que nous pourrions donner. Et si c'est l'apôtre Paul qui écrit ce texte, l'apôtre Paul lui-même en savait quelque chose. Parce que alors qu'il faisait le mal avant de connaître le Seigneur, et il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens, eh bien persécuté, il l'a été à son tour par la suite, lorsqu'il est devenu chrétien. Et voilà ce qu'il dit. Prenons ensemble ce passage, 2 Corinthiens, chapitre 7. Voilà, en pleine difficulté, en pleine épreuve, 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 4 à 6. De Corinthiens 7, verset 4. « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. » Et il y en avait des afflictions. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au-dedans, mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet, etc., etc. Dieu a changé le mal en bien. » Et poursuivez à l'époque, pour Paul, pour les églises, le même but que celui qui poursuit pour l'église d'aujourd'hui. Et pour les chrétiens de manière individuelle, nous faire progresser pour que nous atteignions un jour la ressemblance de Christ. Enfin, j'aimerais comprendre que toute chose, si de nouveau je me retrouve sur Romains 8, 28, j'aimerais comprendre que toute chose concourt. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on a vu toute chose, mais toute chose concourt. Pas pareil. C'est-à-dire, travaille ensemble. C'est un travail collectif, en quelque sorte. Les événements que Dieu conduit pour pour le bien de ses enfants, pour le bien de son Église, travaillent, ces événements travaillent ensemble. C'est l'idée de ce verbe concourir. Et même si concrètement nous avons du mal à saisir cette réalité, Dieu également nous demande de le croire par la foi. Parce que c'est hors de notre capacité, hein, de le comprendre. Quand un événement agit, surgit à un instant T, personnellement, je ne le lis pas à un autre événement, à un autre instant. Pour moi, ça n'a pas véritablement de sens. Mais tous les événements qui touchent la vie individuelle ou collective de l'Église, ce verset nous dit, affirme que tous ces événements ont un lien entre eux et vont travailler ensemble d'une manière que nous ignorons la plupart du temps, bien sûr, mais selon un plan préconçu par notre grand Dieu, architecte de l'univers qui a créé les cieux et la terre. Et nous pouvons avoir confiance en lui, que ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Souvent, on analyse les événements qui nous parviennent, qui nous arrivent, que nous traversons de manière séparée les uns des autres. Alors, en quelque sorte, c'est une difficulté qui arrive à un moment, une autre difficulté qui arrive ensuite, etc. Mais Dieu ne voit pas ça comme ça. Résultat, on ne comprend pas grand-chose à ce qui nous arrive. Et souvent, on dit, pourquoi ? En revanche, envisager que Dieu permet cela, soit même sa volonté, et y déceler un lien entre eux permet de mieux comprendre comment Dieu, dans son amour, peut faire travailler toutes choses à notre bien. Et ça fait partie du discernement également que Dieu veut nous donner pour stimuler notre foi. Et je suis certain que parmi nous, il y a beaucoup de témoignages qui pourraient être donnés sur ce sujet-là. On ne peut pas en vouloir à Joseph de ne pas avoir discerné que tous les événements qui ont marqué sa vie et qu'il a pu subir dans sa vie travaillaient ensemble à son bien. On ne peut pas lui en vouloir puisque nous sommes pareils que lui. Mais il s'en est aperçu plus tard, en affirmant à la fin que Dieu avait changé le mal en bien. Il avait pu le discerner, il avait pu voir tous ces événements qui se sont enchaînés dans sa vie, qu'ils soient bons ou moins bons ou mauvais, que tout cela travaillait ensemble pour son bien, pour le bien de sa famille. Et ça, il ne l'avait compris qu'après. Dieu veut me faire progresser dans ce sens. Alors, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, mes amis, par son esprit, à comprendre toujours plus ces quatre choses. Je les répète. Premièrement, que sa promesse est pour nous qui l'aimons et avons été appelés à le connaître, parce que c'était dans son plan éternel. Deuxièmement, que le Seigneur nous aide également par son esprit à comprendre que cette promesse consiste à réaliser et à atteindre le but que Dieu s'est fixé, à savoir former en nous un caractère, une personnalité à l'image de Jésus-Christ. Je dois progresser pour mieux le comprendre. Troisièmement, que le Seigneur, par son esprit, nous aide toujours plus à comprendre que Dieu utilisera dans sa sagesse absolue toute chose, à l'apparence bonne ou mauvaise, pour moi, mais pour me faire ce bien-là dont je parle depuis le début, en prenant soin que ces choses ne me brisent pas, mais au contraire me rapprochent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, et aussi de mes frères et sœurs, bien sûr. Et enfin, quatrièmement, Que le Seigneur m'aide par son esprit à comprendre toujours plus que toutes ces choses, ces événements qui me touchent travaillent ensemble. Et que je n'ai absolument aucune crainte à avoir, même si j'ai cette impression naturelle, humaine, que beaucoup de choses m'échappent et s'acharnent sur moi ou sur son Église. Et je n'ai pas à craindre cela parce que dans les mains de Dieu, ces choses vont produire au temps voulu par le Seigneur une abondante récolte. Oh ! Vous voyez que lorsque on prend un simple verset, un simple texte, il peut enrichir nos pensées d'une manière incroyable. Alors, pour fortifier notre cœur, j'aimerais prendre deux versets dans le livre d'Ésaïe, et j'aimerais qu'on le prenne ensemble, Ésaïe chapitre 30. Donc, Ésaïe chapitre 30. Verset 15. Et puis après, nous prendrons le cantique, c'est pour préparer Jonathan, le cantique 392, à la fin du message. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pardon, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quel beau verset. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 41, je tourne quelques pages. Bien sûr, on peut relier ce verset à Romains 8, 28. Ésaïe, chapitre 41, versets 8 et 10. Ésaïe 41, verset 8. Et je peux m'identifier de manière individuelle dans ce verset. Je vous encourage à le faire. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Eh bien, c'est ma prière, en quelque sorte. Que le Seigneur réalise en moi, d'abord, mais en nous, ce qu'il a promis de faire. Et que, à notre haut niveau, connaissant un petit peu mieux son but et sa manière d'opérer, nous acceptions, comme nous le dit ce verset d'Ésaïe 30, nous acceptions dans la confiance et la tranquillité les événements qui jalonnent notre vie et que Dieu contrôle parfaitement, et tout en nous remettant à lui dans la prière. Ne vous inquiétez de rien, nous dit Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que la parole de Dieu nous fasse du bien.